Ma mère se détourna sans rien dire, réfléchissant manifestement à ce que je lui disais, mais elle n'était plus fâchée. Je sus qu'elle pensait à mes déclarations et réalisais qu'elle bouleversait le monde sécurisant qu'elle connaissait. Sans sa croyance en un Jéhovah menaçant l'humanité désobéissante du pire châtiment, elle se sentirait perdue et vulnérable. Elle se demandait comment le monde allait tourner, s'il dépendait uniquement des hommes de contrôler leurs mauvaises actions et celles d'autrui. Même les rois et les gouverneurs commettaient des méfaits. Sans Jéhovah pour gouverner et punir les pécheurs, comment tout cela finirait-il? Pendant que je reprenais des forces, j'étudiais avec application les Écritures afin de pouvoir rencontrer les pharisiens et les scribes en toute sérénité. Il fallait aussi absolument que je connaisse ce qui avait été écrit au sujet du Messie, car j'étais convaincu d'être celui dont avaient parlé les prophètes. J'étais capable, en effet, de sauver les gens de la misère, la maladie, l'indigence, et même de leur rendre la santé et la prospérité en leur révélant la vérité concernant le royaume des cieux et la réalité du Père. Lorsque je sentis que j'étais suffisamment préparé pour sortir enseigner et guérir, afin de plaire à ma mère, j'acceptai d'aller un jour de Shabbat à la synagogue de Nazareth pour parler à l'assemblée des fidèles. Selon la tradition, je me levai et l'on me tendit Ésaïe à lire. Je choisis le passage annonçant la venue d'un Messie qui libérerait le peuple juif de tout esclavage. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la liberté et redonner la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés et proclamer l'année de grâce du Seigneur. Puis je me rassis en disant, « Aujourd'hui, vous voyez cette prophétie se réaliser en moi. » On vit le choc et la stupéfaction se peindre sur les visages des hommes, mais je continuais à parler, sachant que le Père m'inspirerait. Les mots me vinrent sans hésitation. Je parlais de mon expérience dans le désert et racontais ma vision du bébé qui, tout en grandissant, s'entourait sans s'en rendre compte de cordes et de chaînes mentales et ainsi aveugle, s'enfermait dans une prison intérieure sans lumière, séparée de Dieu. J'expliquais qu'en agissant ainsi, les hommes s'exposaient à l'oppression des conquérants, à l'esclavage, à l'indigence et à la maladie. Car Dieu est lumière, dis-je, et la lumière est la substance de toute chose visible. La lumière est amour, qui permet à l'homme de jouir de toute chose. Toutes les bénédictions d'abondance et de santé étaient à la libre disposition de celui qui aimait Dieu de tout son esprit, son cœur, son âme, et vivait dans la stricte observance des lois de Dieu. Lorsque j'eus fini, le silence le plus complet régnait dans la synagogue. Je sentis que la congrégation avait vécu quelque chose d'étrange et de puissant, qu'elle avait été soulevée sur un plan supérieur de pensée et désirait que rien ne puisse déranger la tranquillité transcendante de ce moment. Puis les fidèles se mirent à murmurer entre eux. Ils se demandaient qui j'étais. Quelques-uns étaient convaincus que j'étais le Jésus dont la famille était bien connue dans le village, mais d'autres ne pouvaient l'accepter, puisque je parlais avec une telle autorité. Malheureusement, je sentis ressurgir les anciennes réactions que suscitaient en moi ces hommes religieux. Je savais qu'ils m'avaient méprisé dans le passé et je m'attendais à être rejeté. Comme autrefois, je les défiais et les plongeais dans une profonde colère. Par mes réactions humaines, j'attirais le désastre. Et désastre, il faillit y avoir. Les hommes les plus jeunes, poussés par leurs aînés, se jetèrent sur moi et me hissèrent au sommet du plus haut rocher pour me précipiter vers ma mort, mais je priai mon père pour qu'il me délivre. Soudain, il sembla qu'ils étaient si excités qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, et dans la mêlée, je réussis à me faufiler hors du groupe et à m'enfuir. C'était étrange. Ils ne semblèrent pas remarquer que je n'étais plus là. Vilainement secoué par mon expérience, je réussis à faire parvenir un message à ma mère, disant que je quittais Nazareth immédiatement et descendais à Capharnaüm, une charmante ville au bord de la mer de Galilée. Je pensais d'abord rejoindre de vieilles connaissances, mais je sentis intuitivement que ce n'était pas la chose à faire. Ainsi, tout en cheminant et jusqu'à mon entrée dans la ville, je priai le Père de me diriger et de m'aider à trouver un logis. Je n'avais pas d'argent et ne voulais pas mendier. En marchant dans la rue, je vis venir à moi une femme d'âge moyen, les bras lourdement chargés de paniers. Elle semblait très affligée et paraissait avoir pleuré. Sur une impulsion, je l'arrêtai et lui demandai où je pourrais trouver à me loger. Elle me répondit brièvement qu'elle m'aurait bien offert un lit, mais qu'elle avait un fils très malade à la maison. Elle ajouta qu'elle était allée acheter de quoi nourrir les consolatrices, déjà réunies pour se lamenter dès que son fils serait mort. Mon cœur s'affligea pour elle, mais se réjouit également. J'étais à l'instant même conduit vers quelqu'un que je pouvais aider. Je lui exprimai ma sympathie et offris de porter ses paniers à la maison. Elle me regarda un instant, se demandant qui je pouvais bien être, mais fut apparemment satisfaite de mon apparence et de ma tenue. En chemin, je lui dis que je pourrais probablement aider son fils. « Es-tu médecin ?» demanda-t-elle. Je répondis que je n'avais pas étudié la médecine, mais que je pourrais tout de même l'aider. Dès que nous arrivâmes chez elle, une grande et belle maison construite en pierre, manifestant extérieurement un certain statut social et une belle prospérité, elle me conduisit à son mari, lui disant « Cet homme dit pouvoir aider notre fils. » Il inclina la tête d'un air sombre, sans rien dire. La femme, qui s'appelait Myriam, m'éloigna en disant qu'il était désespéré et très en colère. « C'est notre fils unique parmi beaucoup de filles, et il accuse Dieu d'avoir rendu l'enfant malade. » Myriam se mit à pleurer. « S'il parle ainsi contre Dieu, quels maux vont encore nous tomber sur la tête ?»« Console-toi, dis-je. Ton fils sera bientôt guéri. » Elle n'avait pas l'air convaincue, mais me conduisit à la chambre dans laquelle gisait le garçon. Il y régnait une chaleur suffocante, et elle était pleine de gens bien intentionnés, tristes et bavards. Je demandai à la mère de faire sortir les visiteurs, mais ils s'y refusèrent. Ils voulaient voir ce qui allait se passer et ne partir qu'à contre-cœur. Encore fallut-il que Myriam appelle son mari et que ce dernier leur parle. Je pus les entendre discuter avec le père dans la chambre voisine. Que pensait-il que cet homme pût faire si le médecin avait été incapable d'aider le garçon? Le père entra dans la chambre pour voir de lui-même. Son fils était pâle comme la mort et avait une fièvre élevée. La mère expliqua qu'il ne gardait pas la nourriture et avait la diarrhée. Cela faisait plusieurs jours qu'il était dans cet état et il avait perdu tellement de poids que le médecin avait dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Il allait probablement mourir. J'imposai les mains sur la tête du garçon et priai, sachant, en la remerciant de tout cœur, que la vie père affluerait dans son corps à travers mes mains. Ainsi, le travail de guérison serait accompli. Je sentis une chaleur extrême et une vibration me picoter les mains et la puissance se répandre dans son corps frêle. Je fus submergé d'une reconnaissance joyeuse. Que la vie père était extraordinaire et merveilleuse lorsqu'on la laissait faire son œuvre naturelle de guérison. Sa mère et son père, tout en regardant anxieusement et se demandant ce qu'il allait se passer, se tenaient mutuellement les mains et observaient attentivement. Lorsqu'ils virent graduellement les couleurs de leur fils passer du blanc à un éclat plus sain, ils poussèrent des exclamations d'étonnement et de joie. Après un certain temps, le garçon me regarda et me dit d'un ton alerte « Merci, je vais bien maintenant. J'ai faim et j'aimerais manger quelque chose. » La mère rit de bonheur et le serra contre elle, mais elle avait aussi l'air d'appréhender quelque chose. « Je ne peux pas te donner à manger, mon fils. Le docteur serait fâché. » En effet, le docteur lui avait ordonné de ne lui donner que de l'eau. Je souris et dis « Il est guéri. Tu peux lui donner du pain et du vin et il les gardera. » Son père, Zédéchia, était transporté de joie et de gratitude. Après avoir embrassé son fils bien-aimé, il se tourna vers moi et me serra chaleureusement les mains. Il me tapotait l'épaule sans arrêt en secouant la tête, incapable de parler car les larmes coulaient le long de ses joues. Lorsqu'il eut repris contenance, il traversa le salon et dit aux gens qui y étaient « Mon fils, à l'article de la mort, est revenu à la vie. » Ces paroles furent accueillies avec de grands cris de joie, d'enthousiasme, des exclamations d'incrédulité, des questions, des rires et des félicitations. La mère de l'enfant se tenait là, le visage rayonnant. Après cela, il ne fut plus question de chercher un logement. Lorsque Zédéchia dit aux visiteurs bien intentionnés que l'enfant était guéri, que le garçon lui-même se montra en souriant et en réclamant encore à manger, les consolatrices se pressèrent autour de moi et m'invitèrent chez elles. Je préférais cependant rester chez le père de l'enfant, qui disait maintenant qu'il avait beaucoup de questions à me poser et qu'il espérait que je pourrais y répondre. Après que de la nourriture et du vin aient été disposés sur la table, que chacun ait été invité à manger à satiété, Zédéchia s'assit et posa sa première question. Il dit « Tu as fait quelque chose qu'aucun prêtre ni médecin n'a pu faire. La guérison ne vient que de Dieu. Bien que tu sois un étranger, je sens que tu dois venir de Dieu. » « Oui, » répondis-je. Et les gens murmurèrent, émerveillés. Cette maladie qui a terrassé mon fils, était-ce une punition pour quelque chose que j'ai fait dans le passé? Et comment aurais-je pu commettre un péché aussi grave que Dieu ait voulu me prendre mon fils unique? Beaucoup de gens acquiescèrent à ces paroles. Tu as posé la question à laquelle j'ai le plus envie de répondre, Zédéchia. Dieu nous donne la vie et l'être. Il ne nous les arrache pas, comme un homme arrache son trésor à un autre parce qu'il est fâché contre lui. Ça, c'est la manière dont l'humanité se comporte. Pas Dieu. Et Dieu n'est pas assis sur un trône quelque part dans le ciel, comme le sont les rois qui gouvernent les peuples. C'est ainsi qu'agissent les hommes, et c'est une croyance, pas la vérité. La façon dont Dieu agit dépasse de loin tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou rêver. Moi seul ai vu ceux qui nous donnent la vie, et je sais que ce n'est pas le Dieu que nous enseignent les rabbins. J'ai vu que cela était l'amour parfait, et c'est la raison pour laquelle je préfère parler du Père, car j'ai vu que cela œuvre en chaque créature, la maintenant en bonne santé, tout comme un père humain travaille pour donner à ses enfants nourriture, vêtements et protection dans la sécurité d'un foyer. Je l'ai vu en tout ce qui existe dans le monde. Comment cela se peut-il? Demanda un homme d'un air sceptique. Il n'est pas possible à un individu, de quelque façon qu'il s'y prenne, d'être partout à la fois. Mais l'air est partout, bien que nous ne le voyons pas. Nous n'en savons pas moins, et n'en doutons pas, qu'il est tout à fait réel et essentiel à notre existence. S'il n'y avait pas d'air, si nous ne pouvions pas respirer, nous mourrions. Le mouvement de l'air, que nous appelons le vent, nous ne pouvons pas le voir, mais nous le voyons agiter les feuilles et pousser les nuages dans le ciel. C'est ainsi que nous savons que l'air nous entoure et qu'il est actif. Et maintenant, je vous demande, qu'est-ce qui est le plus important dans l'homme, son corps ou son esprit? Quelques-uns répondirent que c'était le corps, car autrement, il n'aurait pas sa place sur terre, ne pourrait travailler, être vu, et ne serait pas connu. D'autres dirent qu'ils pensaient que l'esprit était plus important que le corps. Et je répondis, « Son esprit est la partie la plus importante, puisque sans son esprit, il ne pourrait diriger son corps. Il ne pourrait manger, boire, dormir, bouger, penser, ni vivre. Et pourtant, on ne voit pas l'esprit. » C'est seulement grâce à nos pensées que nous savons que nous avons un esprit, et parce que les pensées façonnent telle ou telle action dans notre vie. Nous croyons que l'esprit s'exprime grâce au cerveau. Oui, c'est vrai. Car comment le cerveau, né de la chair, pourrait-il produire des pensées, des sentiments, des idées, des projets? Et maintenant, il devrait être clair que c'est ainsi que le Père est présent en toutes choses. C'est l'esprit derrière l'esprit humain qui accomplit son œuvre en chaque être vivant. Nous savons qu'il en est ainsi, car nous voyons les merveilles que cela crée. Nous voyons la croissance des enfants, nous voyons la nourriture qu'ils mangent se transformer miraculeusement en une autre substance qui les nourrit et les fait croître. Comment cela se produit? Nous n'en avons pas la moindre idée, nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et même si nous le savions, nous ne saurions toujours pas ce qui a mis en place un processus de vie si important dans les corps vivants de chaque espèce. Voyez la merveille que sont les corps de chaque espèce, façonnés et créés intentionnellement pour transformer expressément la nourriture qui leur est adaptée et qu'ils reçoivent en nourriture faisant croître leurs os, leur sang et leur chair. Maintenant que tu nous montres ces choses, nous pouvons voir qu'elles sont en effet merveilleuses. Un jeune homme s'exclama : « Oui, c'est vrai, c'est extraordinaire !» On voit les jeunes corps passer par leurs divers stades de développement et les esprits suivre le rythme du développement physique jusqu'à ce que les adolescents se mettent en quête d'un époux et deviennent parents à leur tour. Puis le grand œuvre de la conception s'accomplit et la semence continue à croître dans le ventre de la mère jusqu'à naître, au terme de la gestation, sous la forme d'un enfant. Pensez-y. Qui détermine cette croissance ordonnée et constante au sein de la femme? D'où proviennent les plans qui dirigent le bon développement de la tête, du corps, des membres, sans varier d'une femme à l'autre et d'une espèce à l'autre? Qui décide du moment exact où commence l'accouchement, des moyens physiques par lesquels le bébé sort du ventre de sa mère, de la provision de lait qui lui est destinée? Pensez-y, est-ce la mère? Non, ce n'est pas la mère. Elle n'est que le témoin de tout ce qu'il se passe en elle depuis le moment où elle a connu son mari et où il a planté sa semence pour qu'elle s'unisse à la sienne. Dieu fait-il toutes ces choses de loin? Ses pensées s'étendent-elles à chaque homme et femme? Et ces dernières décident-elles quand ces choses doivent avoir lieu? Non. Tout ce travail est accompli par la puissance créatrice de l'esprit, la vie intelligemment aimante en toute créature vivante. Nous voyons l'amour des parents pour leurs petits, fussent-ils des oiseaux, des animaux ou des hommes. D'où vient cet amour? Il émane de la puissance créatrice de l'esprit, de l'amour parfait, du Père en nous. C'est parce que le Père accomplit le travail dans les plantes, les arbres, les oiseaux, les animaux et l'homme lui-même que nous sommes ici aujourd'hui, vivants, respirant, mangeant, dormant, procréant, vieillissant puis mourant pour nous rendre en un endroit plus heureux. Tout ceci est l'œuvre du Père, active en nous. Comment pouvez-vous nier la vérité de tout ce que j'ai dit ce soir? Aujourd'hui, vous avez vu un jeune garçon à l'agonie revenir à la plénitude de la vie en un temps très court. Est-ce moi qui l'ai guéri? Pas du tout. De moi-même, je ne peux rien. C'est la vie qui est le Père actif en toutes choses, qui est venu en pleine force pour réparer un corps souffrant et lui restituer sa pleine santé parce que j'ai cru qu'elle le ferait et que je n'ai pas douté. Il y eut des soupirs de satisfaction dans la pièce. Une nouvelle lumière, un nouvel intérêt et même une nouvelle douceur apparurent sur les visages.